En fait, évidemment, avec les neurosciences, on sait qu'aujourd'hui, un enfant atteint la maturité au niveau du cerveau vers 25 ans. Ça pose déjà des questions parce qu'à 12 ans, je dois faire des choix importants. Je fais du latin, je fais du... Et à 18 ans, je fais des choix très importants. Alors qu'avec la courbe de Gauss, on a une bonne majorité de 80% qui, à 18 ans, n'ont pas encore la partie qu'on appelle le préfrontal qui nous permet de nous projeter dans le futur. Donc on n'imagine pas le nombre de gens qui entament des études absolument sous l'influence de « papa, maman veut, les copains y sont, j'y vais », sans avoir aucun recul sur « mais dans le fond, je veux faire quoi de ma vie ?» Ça, c'est déjà un gros problème pour l'éducation, surtout quand on veut une éducation tout au long de la vie. Mais pour revenir maintenant au fait qu'il faut 25 ans pour mûrir, ça veut dire que si j'ai un enfant qui naît maintenant, en 2026, je ne dois pas me dire « qu'est-ce que je vais lui apprendre pour bien vivre aujourd'hui ?» Et faire attention, pas non plus faire comme mes parents avant, parce que ça c'est 25 ans en arrière. Donc 25 ans en arrière, ou aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le monde qui nous attend demain? Ben la réponse, faut juste un peu s'amuser à regarder à quoi ressemble 2050. Non. Par contre, tout le monde est sûr que ce sera pas la même chose. Mais personne sait quoi. Donc c'est-à-dire, surtout pas les habituer, les conditionner, créer des automatismes et des réflexes dans la manière de penser et d'agir, puisque c'est pas ce monde-là.
Mais enfin, comment concrètement, je reprends les termes, futur adulte, responsable, autonome et socialisé, quelles sont les étapes et à quel moment est-ce que c'est important et quelles sont les pistes que vous proposez pour amener justement cette réflexion de futur adulte, en fonction de l'âge, du tout petit jusqu'au préadolescent?
Alors évidemment, c'est un peu l'originalité du livre, c'est que je me suis dit, je vais quand même créer une sorte de mode d'emploi. Parce que si je leur dis juste, c'est ça le but, allez-y, courez, vous avez 25 ans devant vous, il y a quand même, heureusement, beaucoup d'éléments qui nous permettent de dire que certaines compétences doivent se développer à certains âges. Alors évidemment, le propre de mes réflexions, c'est qu'à 18 ans, est-ce que ça vaut la peine de leur apprendre à devenir adulte? C'est trop tard, il devrait l'être. Donc c'est pas à 18 ans qu'on apprend des compétences essentielles, parce que derrière responsable, autonome et socialisé, j'ai une série de compétences que j'ai identifiées, et ce sont les compétences qui sont universelles pour moi. Je pense qu'au Moyen-Âge, du temps de Cro-Magnon, aujourd'hui, à l'ère industrielle ou demain, c'est les mêmes. C'est celles qui font qu'un être humain survit et passe le cap. Alors pour bien en parler méthode, j'ai beaucoup réfléchi durant toutes ces années en me disant, mais à quelle période le mieux, peut-on le mieux développer les compétences comme responsable, autonome? Pas à 18 ans, c'est trop tard. À l'adolescence, ben, si vous avez des ados, c'est pas le moment de croire que vous avez de l'influence. Au contraire, on la perd. Donc nous, parents, nous, enseignants, sur les ados, on a très peu d'influence. C'est les pères qui vont jouer. Donc, ben, il n'y a pas beaucoup de choix.
P-A-I-R.
Ah, ouais. Père, bien sûr. Pas les pères, mais les mères. Mais bien sûr, père. Hein. Donc, c'est avant 12 ans. C'est ce que j'appelle mettre les fondations des compétences clés qui lui permettront à l'adolescence de bien jouer son rôle, parce que à l'adolescence, il se prend pour un adulte, évidemment. Donc, s'il se prend un adulte pour une seule raison, c'est qu'il a la maturité biologique, mais il n'a pas les restes et il sense. Donc, avant 12 ans, pour faire court, c'est là que ça se passe, et ça se passe non pas en donnant cours en tant que parent, mais en favorisant, en détectant les éléments clés, comme quand il dit non, on vient d'identifier une compétence fondamentale de l'âge adulte, pas la casser, pas l'étouffer, apprendre déjà à lui dire bah, c'est bien mon petit chou. Et bien on va tous un peu être agacés au 52e non. C'est comme quand il pose la question pourquoi au 52e pourquoi, puis ça nous renvoie, j'en ai marre de ne pas savoir répondre, c'est nous qui sommes atteints. Donc que ce soit la curiosité, l'esprit quitté, que ce soit l'affirmation de soi, c'est avant 12 ans.
Je voudrais revenir sur le nom quand même, parce que là, je sens qu'il y a des marques. Comment en fait, non, ce que vous expliquez, c'est valoriser le nom que vous entendez, mais pas forcément le justifier ou l'accepter. Ce que vous dites aussi, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans une forme d'éducation sans être explicite. Ça veut dire que lorsque l'adulte explique son dit un nom, il doit pouvoir l'expliquer aussi, l'asseoir sur quelque chose. Après, à chaque adulte, évidemment, de barbara son ressenti, sa volonté ou son système d'éducation, de l'expliquer à sa manière. Mais d'être explicite avec son enfant sur les règles aussi, sur les limites que l'on met, sur ça ne veut pas dire ne pas mettre de limites, au contraire, mais c'est juste les expliquer, les justifier sur la gestion de sa scolarité, sur la gestion des conflits aussi. Toujours avoir ce temps de l'explication.
Alors, des réexplications, qu'on fait souvent justification. En fait, ce qu'il y a, et ça revient au sens, si je décide qu'on peut ou pas faire quelque chose en tant que parent, est-ce que déjà je sais pourquoi j'ai choisi le oui ou le non? Si déjà je ne sais pas pourquoi moi, si déjà ça n'a pas de sens pour moi, je ne risque pas d'être convaincu et encore moins convaincant. Donc l'autorité, elle passe parce que je sais pourquoi je fais des choix. Donc mes choix, ils sont orientés parce que je veux un adulte, j'ai un cap. Si je n'ai pas de cap, de toute façon, ça n'a pas de sens. Et maintenant, à chaque fois qu'il y a un comportement que j'ai envie de favoriser, d'autres comportements, je n'aurais pas envie de favoriser, mais ça, c'est ma famille, mes valeurs. Si j'estime, moi, que la loi du plus fort n'est pas une bonne valeur, un bon comportement, ben, c'est mon choix de famille. J'en connais plein d'autres qui veulent la loi du plus fort, qui disent à leurs enfants, sois le meilleur, bats-toi, écrase les autres. Je ne vais pas dire si c'est bien ou mal, je ne suis pas dans leur famille, moi, ni dans leur culture, ni dans leur pays, bon, tout ça est compliqué. Mais ça veut dire que le non, on le favorise, on l'accueille, mais c'est pas pour ça que l'enfant prend le pouvoir. On ne va pas dire oui parce qu'il veut m'influencer, mais je lui dis, écoute mon petit chou, je comprends que tu n'as pas la cause, je comprends que tu n'as pas envie, mais je ne change pas ma décision. On en reparlera une autre fois. Je suis un surtout, c'est vraiment, si moi je ne sais pas pourquoi, mais je perds tout mon pouvoir de conviction, mon autorité.
Isabelle nous écrit ceci.
À une bonne 20-30 ans d'avance, mais les Scandinaves aussi, hein, les Scandinaves en 71, ils ont décidé, après mai 68, les Scandinaves ont fait la révolution culturelle et ils ont décidé de changer tout le système d'enseignement. Ils ont mis 20 ans pour convaincre les enseignants et encore 20 ans pour convaincre les parents. Mais au bout de 40 ans, il n'y a plus personne qui se souvient comment on faisait avant. Alors en Belgique, ils ont aussi essayé en 71. J'avais rencontré à l'époque quelqu'un qui était au cabinet de l'enseignement et qui m'avait dit, mais nous aussi, on a essayé en 71. Ça s'appelait le rénové. Alors pour ceux qui ont connu le rénové, on était dans une logique très proche des Scandinaves, très proche des Québécois. Et c'est sûr que c'est un peu mal à dire, mais tout existe dans d'autres pays. Pourquoi c'est abandonné? On m'a expliqué qu'il y avait des guerres entre les Flamands, les Wallons, ceux qui étaient chrétiens, ceux qui n'étaient pas chrétiens, toutes ces écoles, tout le monde, une division qui fait que le rénové est abandonné à peu près 15 ans après. Mais tout ça pour dire qu'apprendre à négocier, apprendre l'empathie, apprendre à s'affirmer, ça se fait même pas à 6 ans, on peut commencer avant. En fait, à 2 ans, quand le petit nom arrive, après ça va même plus loin, parce que quand l'enfant pleure, il est en train de vous dire ce qu'il veut. Il est en train d'essayer, s'il a l'énergie, il va essayer de vous avoir à l'usure. Hein. Mm. Ben, il est déjà en train de s'affirmer. Il ne faut pas attendre 2 ans. À 2 ans, il a le langage qui dit non. Ben, avant, il est déjà en train, avec ses cris, avec ses pleurs, d'essayer de dire, grâce à son instinct de survie, je veux ça. Mm. Et j'insiste.
Mais apprendre dans l'excès de quelque chose ou quand on est dans le manque de quelque chose et on sent qu'entre les deux, eh bien, il y a une palette de possibilités, il y a une palette de nuances qui peuvent être mises en place en fonction évidemment de son propre système de valeurs ou les choses que l'on a envie de transmettre à ses enfants.
Grandit, évolue par mimétisme. Donc que le parent le veuille ou non, l'enfant progresse comme ça. L'enfant n'écoute pas tellement les discours, il regarde les actes. Donc, si on a un discours qui dit, voilà, je veux que tu négocies et qu'en fait, je ne négocie jamais, j'impose, ni avec mon conjoint, ni dans la vie, ben, l'enfant, il a quand même difficile à un moment à imiter, à reproduire, puisque ce n'est pas cohérent. Donc, être parfait, parent parfait, ça n'existe pas, mais être conscient que parfois, je ne suis pas exemplaire, parfois, je le suis, et dire à son enfant, bon, papa, il n'est pas très bon en négociation, il n'y a pas de problème. Mais à parler, je veux que tu deviennes un grand négociateur dans la vie et que je ne le suis pas moi-même. Mais c'est comme l'affirmation de soi. Hein. Le nombre d'adultes qui ne savent pas dire non. Ça va falloir. Donc il ne faut pas s'étonner qu'un enfant ne sait pas dire non si l'adulte ne sait pas le faire. Mais c'est pour tout. Hein. C'est évidemment complexe parce qu'à l'école, là aussi, les adultes sont des exemples, bons ou mauvais. Il faut vraiment que l'enfant comprenne que le rôle de l'école et le fonctionnement de l'école n'a rien à voir. On ne négocie pas à l'école. On ne dit pas à quelle heure je viens à l'école. Non. Tout est organisé, planifié, imposé. C'est comme ça. C'est pour le bien de l'enfant. C'est pour qu'il grandisse en termes de savoir. Et à la maison, ben c'est à la maison qu'on va apprendre à faire des compromis, qu'on va apprendre à négocier avec nos ados. Mais il n'y a pas besoin d'attendre l'ado pour négocier à quelle heure on rentre ou pas. Tout se négocie tout le temps.
Jerry Pinkston, je me mets à la place.
Effectivement compliqué. Il y a de la fatigue, il y a du stress. On est très inquiet pour le futur. On a peut-être une période des plus anxiogènes depuis les 100 dernières années, peut-être un peu moins, mais depuis 45. Mais ça veut dire que je propose effectivement dans le livre, non pas de donner un cours, ni d'être parfait, mais de favoriser les compétences essentielles par un système très simple qui est le jeu. Par le jeu, en fait, il faut se poser la question, combien de fois on joue avec nos enfants? Après 12 ans, on oublie, c'est plus rare. Mais avant 12 ans, tout peut se faire par le jeu, mais tout peut se faire aussi par l'exemple. Je montre l'exemple, je suis parfait, non, mais au moins je suis conscient Déjà, c'est ça l'important.
Et c'est pour ça que vous avez...
On sait ce qu'on veut développer. Si on sait qu'on n'est pas parfait. Maintenant, nombre de gens qui, quand ils ont conscience qu'ils ne savent pas faire quelque chose de vital, aujourd'hui, on peut l'apprendre par soi-même, facilement. Avec tout ce qui est sur Internet, il n'y a pas toujours besoin... Ben, on lit un livre ou on suit une formation, tout est possible. Donc, si déjà le parent est conscient que, au plus il est exemplaire, au plus c'est facile pour l'enfant... Au mieux c'est. Et puis oser dire à notre enfant, ben, ton papa, il n'est pas parfait. Ou ton papa, il n'a pas appris à s'affirmer. Mais moi, je pense que c'est bien que toi, tu puisses t'affirmer. Mais en fait, par exemple, dire que tu n'es pas parfait, mais n'empêche que tu sais vers quoi tu emmènes ton enfant. Et si à un moment, tu te fâches sur ton enfant, tu cries sur ton enfant, ben, tu lui dis juste après, bon, ben, voilà, tu vois, moi non plus, j'arrive pas toujours à faire ce que je veux. C'est tout.
Merde. Positif, patient, persévérant. Là encore, pas toujours évident non plus.
Mais déjà, il faut être conscient. C'est un livre qui veut créer les prises de conscience, qui veut donner un cap et un fil conducteur.
Oui.
Et puis chaque parent, avec ce qu'il est, avec sa famille, avec ses fragilités, avec son vécu, ben, il va avancer en étant tout à fait imparfait, mais conscient. Conscient que, attention, là, tu viens de donner un exemple qui n'est pas bon, parle-en à ton enfant. Oui, j'aurais dû, je ne l'ai pas fait. Tandis que si, on ne le sait pas, si on n'est pas conscient, on fait beaucoup de choses qui sont mauvaises sans le savoir. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Alors pour les 5 P, je me suis à un moment dit, mais on parle toujours de posture, mais quelles sont les bonnes postures? Mais la persévérance, ça veut dire ne t'inquiète pas, ça va durer 25 ans. Oui, mais tu ne sais toujours pas faire ça. Mais ne t'inquiète pas, c'est 25 ans. Mais retape sur le clou, reviens là-dessus, refais un travail. Alors, moi, j'aime beaucoup faire par jeu avant 12 ans, mais la deuxième partie après le jeu, après 12 ans, ce sera l'exemplarité qui va être la plus importante. Donc,